Grande-Bretagne. L'austérité booste les profits et frappe le monde du travail. Voilà quelque temps qu'en France, des experts présentent la Grande-Bretagne comme un modèle dont il faudrait s'inspirer au motif que la politique d'austérité du gouvernement Cameron aurait sorti le pays de la crise. C'est ce que Cameron claironne lui-même, d'autant que les échéances électorales de 2014 européennes et 2015 législatives approchant, il faut bien que la coalition au pouvoir présente quelque chose qui puisse passer pour un bilan positif. Sauf que les chiffres officiels ne sont là que pour masquer une réalité bien moins avenante. Ainsi, en fait, de retour à l'équilibre budgétaire, l'injection de 450 milliards d'euros de liquidités dans le système bancaire entre 2009 et le début 2013 n'est pas prise en compte. Pas plus d'ailleurs que le coût du sauvetage bancaire en 2007-2008. Deux grandes banques restent toujours sous perfusion étatique, y compris la deuxième banque britannique, Royal Bank of Scotland, dont les actifs pourris sont phénoménaux. Dans ces conditions, les chiffres concernant les déficits publics ne veulent absolument rien dire, au point que le gouvernement est lui-même obligé d'admettre que la dette publique va continuer à augmenter en proportion du PIB au moins pendant les 2 années à venir. Reprise de la spéculation, pas de l'économie. Osborne, le ministre des Finances, n'a pas manqué d'annoncer, une fois de plus, sa reprise fantôme. Sauf que, dans ce domaine, les chiffres officiels ont une fâcheuse tendance à être révisés à la baisse. D'ailleurs, suivant certaines estimations, le PIB serait aujourd'hui de 7 à 15% inférieur à ce qu'il était en 2007. Certes, des postes inclus dans le PIB sont présentés comme étant en croissance, la grande distribution et l'immobilier. Cette croissance est très relative, puisqu'elle est due surtout à l'inflation qui reste soutenue et à la hausse de la TVA. S'il y a une augmentation de la consommation des ménages, elle s'exprime seulement en valeur, mais pas en volume. Une des plus grandes chaînes de supermarchés constate par exemple que la consommation des produits frais serait en baisse sur l'année. Côté immobilier, les prix sont revenus à leur niveau d'avant la crise, voire même les dépassant dans certaines régions. Cette bulle est la conséquence directe d'aides d'État au crédit immobilier, y compris pour les foyers aisés, puisque incluant les résidences secondaires. Parmi les secteurs qui baissent dans le PIB, le plus important est le secteur industriel. La production dans l'industrie serait aujourd'hui 15% en dessous de son niveau de 2007 et les investissements n'en finissent pas de se réduire, avec 6% en moins au cours de l'année écoulée. Ce n'est pourtant pas l'argent qui manque. Selon la Banque d'Angleterre, les entreprises disposent de 6 fois plus de liquidités qu'au début de la crise, pour un montant total de 600 milliards d'euros. Mais évidemment, ces centaines de milliards servent à bien autre chose. À la spéculation sur les marchés financiers d'abord, qui a retrouvé sa frénésie passée, et à remplir les poches des actionnaires qui ont touché cette année des dividendes 40% supérieurs à ceux qu'ils avaient touchés en 2007, pourtant une année record. Le coût pour la population laborieuse. Dans son collectif budgétaire, Osborne a confirmé la baisse de l'impôt sur les bénéfices à 20% en 2015 contre 28% en 2010. Il a par ailleurs annoncé la suppression des cotisations patronales pour les moins de 21 ans et doublé le fonds d'aide à l'exportation à 60 milliards d'euros. Mais comme il faut bien payer ces cadeaux au patronat, les dépenses de l'État seront de nouveau réduites de 4,5 milliards pour chacune des 3 années à venir. Ces baisses des dépenses ont pour corollaire le gel des salaires et la suppression de centaines de milliers d'emplois publics, la fermeture des services hospitaliers ou encore la suppression croissante des services gratuits d'aide à la personne, tant pour les personnes âgées que pour les handicapés. Autre mesure annoncée par Osborne, le report progressif de l'âge de la retraite d'État à 70 ans en 2050. D'ici là, en 2016, cette retraite deviendra uniforme à 700 euros par mois pour 35 années de cotisation à temps plein. Certains retraités y gagneront un peu, mais par un effet pervers, beaucoup seront en fait perdants, car ils n'auront plus droit à certaines allocations sociales. Qui plus est, vu l'explosion des temps partiels et de l'emploi intermittent depuis le début des années 1990, beaucoup de retraités pourraient bien ne pas avoir les 35 ans de cotisation voulus. Du côté de l'emploi, les chiffres atteindraient un record historique au dire du gouvernement. Qu'importe si ces chiffres ne veulent rien dire, puisqu'il suffit d'avoir fait 1 heure rémunérée dans la semaine pour être considéré comme employé. Qu'importe aussi si, selon des estimations récentes, 5 millions de travailleurs en majorité permanents ont des contrats zéro heure, sans garantie de revenu minimum. Qu'importe enfin si désormais 20% des foyers pauvres ne comportent pas de chômeurs. L'endettement des ménages est reparti à la hausse, dépassant de loin son niveau de 2007. Sur le marché de la misère, les officines de prêts usuriers pour les pauvres se sont multipliées. La plus importante, Wonga, dont les publicités passent en boucle à la télévision, prête un maximum de 480 euros sur une durée de 47 jours au plus, à un taux d'intérêt de 1% par jour. En fait, non seulement les revenus des foyers populaires a baissé en valeur réelle, moins 15% en moyenne, mais il a même souvent baissé en valeur nominale. Le fait de changer d'emploi signifie presque toujours une baisse de salaire. Dans bien des secteurs, c'est même vrai de travailleurs qui ont conservé leur emploi, mais se sont vus imposer un contrat de travail plus défavorable. Voilà ce que la bourgeoisie considère comme le succès de la politique d'austérité de Cameron. Le fait que, à défaut de sortir l'économie de la crise, elle a réussi à augmenter la part du revenu national qu'elle s'approprie en faisant payer la crise aux classes laborieuses. François Rouleau.